Bienvenue dans Stéto et Basket. Vous vous demandez comment concilier l'activité physique et la vie de docteur en vrai, si c'est accessible quel que soit le niveau? Alors, vous êtes sur le bon canal. Dans ce podcast, les invités vont vous présenter leur vision de l'activité physique, ce qui les motive, comment ils s'organisent au quotidien et l'influence sur leur santé physique et psychique, ainsi que sur leur activité professionnelle. Laissez-vous surprendre et inspirer par tous ces témoignages. Bonne écoute!
Dans la première partie de notre entretien avec Blandine, diffusée sur le podcast La Consulte, nous avons parlé des débuts de la carrière de traileuse de Blandine en parallèle de son internat de gynéco-obstétrique. Blandine nous a livré aussi des éléments sur son organisation équilibrée pour concilier son sport et son travail.
Dans cette deuxième partie, avec Anis et Blandine, nous avons parlé de la confiance en soi, de l'importance de pouvoir s'épanouir dans une activité en dehors de la médecine, car ceci contribue à une bonne santé psychique. Blandine nous parle avec son expérience du fait de s'octroyer des pauses qui permet d'être plus efficient et de prendre soin de soi.
Elle aborde aussi le fait de faire face au risque de blessure et comment faire quand celle-ci arrive.
Elle évoque ses projets d'avenir, tant sur le plan sportif que médical, et nous parle d'objectifs et du chemin pour y arriver, quel qu'il soit. Comment est-ce que tu as fait ton choix de venir en Lozère? C'est peut-être pas l'endroit où on se précipiterait tout de suite, enfin, sauf qu'il y a quand même du dénivelé autour. Et comment est-ce que tu fais des choix de course aussi? Est-ce que c'est la localisation géographique? Est-ce que c'est parce que c'est le bon timing pour faire tel type de course, maintenant que tu fais des entraînements un petit peu plus techniques?
C'est un grand tort de ne pas vouloir aller en Lozère, hein, parce que c'est magnifique. Il faut vraiment y aller pour comprendre. Mais effectivement, hein, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que beaucoup qui me demandent, mais effectivement, pourquoi est-ce que tu es allée en Lozère? Tu n'as pas eu le choix, mais bon, vous savez très bien, quand on est médecin, on a quand même le choix pour s'installer dans plein d'endroits. Moi, c'est surtout pour rejoindre mon conjoint et ma belle-fille et sa famille. Viennent du Gard, mais voilà, ils sont frontaliers avec la Lozère. Je voulais qu'on se rapproche quand même. Moi, ma famille comme je vous ai dit, est toujours en Normandie, mais j'avais vraiment pas envie de retourner en Normandie parce que maintenant que j'ai pris goût aux montagnes, il me fallait quand même un relief un petit peu vallonné. Voilà, le climat normand ne me correspondait plus vraiment. Donc je me suis approchée plutôt de la famille de mon conjoint. Je pouvais aller dans le Gard ou dans d'autres endroits, effectivement, à l'Est ou à Nîmes. Mais j'ai choisi Mende parce que moi, je cherchais vraiment un hôpital à taille humaine, une petite maternité. J'ai jamais vraiment voulu me surspécialiser. Hein. Je suis pas chirurgienne, je fais pas que l'obstétrique, je suis pas que échographiste. J'excelle sûrement pas dans un domaine, mais voilà, je fais un peu de tout, et c'est vraiment ça que c'est en plus pour ça que j'ai choisi la spécialité de gynéco-obstétrique. C'est cette diversité et cette variété d'actes qu'on peut faire, hein, que ce soit justement des actes techniques ou de la consultation. Pour moi, c'est vraiment c'est la médecine générale de la femme, hein. Enfin, ça paraît grossier, mais c'est, voilà, on peut faire plein de choses en gynéco-obstétrique, et j'ai pas voulu me surspécialiser. Donc voilà pourquoi je voulais une petite maternité où on faisait un peu de tout, quelque chose de familial. Et pour autant, il y a un endroit nature, un peu sauvage et préservé, mais où il fallait quand même, un hôpital qui tienne la route, parce que lui, mon conjoint, il est infirmier anesthésiste, donc fallait un bloc opératoire. Aussi, moi, pour moi, la maternité, il faut aussi un bloc opératoire, donc une maternité. Effectivement, la Lozère, c'est le plus petit, c'est le département le moins peuplé de France, mais bon, il faut quand même un hôpital. Donc finalement, c'est un hôpital avec des grands moyens, hein. On a toutes les spécialités, on a un bloc opératoire, une maternité, un IRM, enfin voilà, plein de choses qui tournent, un hôpital qui tourne, voilà, qui est assez fourni, tout en restant vraiment à taille humaine. Et c'est vraiment ça ce que j'ai apprécié. Et puis après, côté sportif, les montagnes, la nature en Lozère, c'est juste incroyable. En Lozère, on peut pas parler, tout est paisible, en fait. On connaît pas. Des fois, on allume la télé, on voit tous les problèmes qui se passent ailleurs, et on se dit à chaque fois, on est vraiment bien ici. Et puis, comment je choisis mes courses? Ben, pas vraiment par la localisation géographique, à part que oui, je vais choisir des courses plutôt en France ou en Europe. Je pourrais faire des courses, c'est pas tellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de l'impact écologique, etc. Alors moi, oui, je suis assez sensibilisée à l'écologie, mais je ne vais pas m'empêcher de faire des courses qui me tiennent à cœur, juste pour diminuer au maximum l'empreinte carbone, et je ne me suis pas dit que je ne prendrais plus jamais l'avion de ma vie. Mais c'est surtout que aller faire des courses à l'étranger, ça demande, voilà, un engagement, ça demande beaucoup de temps à l'avance, beaucoup de préparation, un engagement mental assez important aussi, parce que voilà, on a beaucoup de choses à préparer dès qu'on doit voyager, le voyage à l'avion, le décalage horaire, etc. Il faut rester longtemps sur place pour s'acclimater. Un peu compliqué, mais il y a quand même une ou deux courses là qui me tiennent à cœur et qui sont pas en France, que je pense que je ferai avant de finir ma carrière. Mais sinon, c'est plutôt globalement des courses en France. Après, la France, on est très, au niveau du trail, on fait partie quand même des meilleures nations. On a plein de courses, notamment, par exemple, la course la plus réputée au monde qui s'appelle l'UTMB, bah, elle est en France. Donc moi, je choisis plutôt mes courses par, bah, par le terrain, hein. J'ai essayé de choisir quelque chose quand même qui me plaît, à des paysages qui me plaisent, mais aussi, il faut pas se le cacher, par la notoriété que peut avoir une course, par rapport au niveau, des athlètes. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'aller m'animer sur des courses où il y a de la densité. Et ouais, des courses qui vont être, assez prestigieuses. C'est vrai que maintenant que je fais du haut niveau, c'est ce que je recherche. J'aurais pas dit la même chose, il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, vous voyez pas l'intérêt d'aller sur des courses où il y a les meilleurs athlètes mondiaux et qui est transmis à la télé, parce que de toute façon, je n'y serais pas passée. Mais j'ai un discours un petit peu différent maintenant que, voilà, que je sais que je peux jouer aux avant-postes.
Moi, j'avais une question. Je t'ai entendu dans un podcast où tu disais que tu manquais un petit peu de confiance en toi dans le sport. Et je voulais savoir si c'était juste le sport ou si c'était d'autres domaines et la médecine en particulier.
Oui, alors ça, c'est le grand symptôme, le grand syndrome de la femme sportive. J'ai l'impression que beaucoup a. C'est vrai, quand je vois autour de moi, on manque tout un peu de confiance en nous. Alors, moi, au niveau du sport, j'ai plutôt ce qu'on va dire le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je ne comprends toujours pas comment j'ai réussi à en arriver là, avec ce niveau et avec ses performances, alors que j'avais pas du tout. Enfin, que quand j'étais jeune, mon avenir n'était pas du tout tracé comme ceci, et que bah, à côté de ça, va y avoir d'autres athlètes qui vont depuis qu'ils sont tout jeunes, leur rêve sera d'être athlète professionnel. Ils auront tout orienté pour les études, etc. Et moi pas, donc j'ai un peu ce syndrome, surtout voilà, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et oui, dans la médecine, effectivement, je me suis aussi toujours trouvée moins forte que les autres, mais j'ai toujours aussi ce ressenti. Moi, j'avais des co-internes qui avaient beaucoup plus d'aisance et de facilité. Quand j'étais étudiante, je restais des heures et des heures à lire des pages, à relire des pages, à apprendre par cœur, alors que j'avais des amis. Bon, là, on l'a tous eu, cet ami, hein, mais qui lit une fois et puis qui retient pour la fin de sa vie. Forcément, on se compare à. On manque de confiance en soi parce qu'on se compare vraiment à l'élite et à la crème de la crème. Mais des fois, voilà, si on se remet un petit peu, si on remet un petit peu l'église au centre du village, il n'y a pas de raison de sentir moins fort que les autres. Hein. Donc on a passé les étapes, qu'on a réussi son concours, etc. Mais c'est oui, toujours un manque de confiance en moi, ça c'est sûr.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, bah, ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire j'ai pas le temps de faire du sport, et qui se retrouve à une vie très sédentaire, alors que j'entendais justement, comme tu disais, que la prévention aussi, c'était quand même une des clés pour bien vivre.
Bah oui, moi je trouve que c'est primordial en fait, de faire, bah, que ce soit du sport ou même toute autre chose, une passion, hein, que ce soit de la peinture, de la musique ou de la cuisine. Mais je pense que le temps, maintenant je ne dis plus j'ai pas le temps, j'ai dit je ne prends pas le temps. Parce que le temps, on l'a tous le temps. Après, ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de ce temps. Mais une chose est sûre, c'est que Si j'avais un message à passer, c'est faites-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Même si, par exemple, dans le sport, des fois, on a l'impression que c'est ingrat et que c'est difficile et qu'on n'a pas envie d'aller courir parce qu'on est fatigué, épuisé et qu'on a mal aux jambes. Je pense que tous ceux qui pratiquent une activité physique se rendent compte du bien-être qu'on a une fois qu'on en fait. Et puis, au début, ben, on peut faire 10 minutes de course à pied, puis le lendemain, ce sera 15. Et puis, au bout d'un mois, on arrivera à faire 1 heure et on prendra du plaisir. Donc, il faut parfois un peu aussi se forcer. Mais si on veut vraiment être équilibré, bien dans sa tête, bien dans son corps, pour moi, il n'y a rien de mieux que le sport, et je trouve qu'il n'y a pas, c'est rare, il n'y a pas une pathologie qui ne pourrait pas être prévenue ou qui ne se traite pas par un peu d'activité physique. Enfin, c'est vrai que l'inactivité, maintenant, on la conseille plus vraiment. Donc voilà, après, même en tant que médecin, si on veut, enfin, même les internes en médecine qui sont hyper pris, toujours dans leur internat, à être à fond. Je pense que il y a un moment où ça va lâcher et je trouve qu'on peut faire énormément. C'est drôle parce que dans le sport et dans l'entraînement sportif, dans la physiologie du sport, on fait plein de recherches sur comment fonctionne le sport, mais aussi le mental, la préparation mentale, etc. Et donc je vois très bien comment fonctionne le corps grâce à ma pratique du sport, mais notamment aussi au niveau du mental, par exemple, et les surentraînements, les surmenages, perte de motivation quand on en fait trop, les surentraînements. Ben, en fait, finalement, ça peut se corréler aussi au niveau de la médecine. Je pense que si à un moment, on est tout le temps à l'hôpital, ou tout le temps les bouquins, ou tout le temps en train de... Il y a un moment où le burn-out, à la médecine ou n'importe quel autre travail, hein, où le burn-out nous pend au nez. Mais même quand j'étais... Là, maintenant, avec un peu de recul et avec les connaissances que j'ai actuelles, je me dis que j'ai ma première année de médecine ou ma dernière année de médecine, mais j'ai pas du tout été assez efficace, je pense, hein, parce que par contre, j'étais tout le temps sur une chaise de bureau, j'ai passé des journées entières à être sur les livres, mais même fatiguée, j'essayais de dormir le moins possible pour apprendre le plus, je mangeais en révisant, je mettais des feuilles, enfin, qui ne l'a pas fait, mais on mettait des feuilles de cours sur notre porte de douche pour pas perdre de temps, ou sur les portes de nos toilettes. Et finalement, avec du recul, je me dis, mais c'est pas ça la solution, parce que mon cerveau ne se reposait jamais. J'avais jamais le temps de lâcher prise et à vouloir tout ingurgiter. Je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à aussi bien apprendre que mon voisin de droite, qui lui lisait une page, retenait, allait boire un café, allait faire un petit footing, il revenait après. Et moi, j'étais tout le temps, et moi, et quand il revenait de son footing, j'étais toujours sur la même page parce que l'excès n'a jamais été bon, en fait. Et voilà, le message que je veux passer, c'est que il faut se laisser aussi le temps de prendre soin de soi et de se faire du bien. Mais on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi en premier.
Et ça, c'est quelque chose dont tu arrives à parler, à discuter avec tes collègues, tes internes, si tu en as, je ne sais pas si tu en as, ou tes patientes. Prendre le
De quoi,
temps
par exemple? Ah oui.
de faire du sport, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à dire, par exemple, à des internes que tu aurais en stage? Je ne sais pas si tu as des internes en stage, mais de leur dire... Écoute, tu peux bosser tout ce que tu veux, mais il y a un moment donné, va faire du sport, ça te fera du bien, tu seras plus efficace. Est-ce que c'est un message que tu arrives à faire passer? Est-ce que tu en parles autour de toi?
Oui, alors beaucoup après, je suis pas forcément rigide sur le sport, mais effectivement, quand j'ai des internes et que je vois qu'il n'y a plus rien à faire, on va dire, je sais pas, à 17 h, alors que normalement, ils sont censés finir à 18 h, moi, je vais pas du tout être là à leur trouver des... Je dis, mais va-t'en, et va... Et par contre, si tu t'en vas, tu vas... Bon, sauf s'il y a la thèse ou vraiment des choses importantes, mais sinon... Je vais leur dire, bah, va retrouver tes amis, ou va retrouver ton copain, ou va faire du sport, encore mieux, mais fais autre chose, va t'aérer l'esprit. Moi, je trouve effectivement c'est vraiment important. Mais ça, je l'ai retrouvé aussi dans l'hôpital où je travaille. Tout le monde a des choses. Moi, par exemple, le médecin avec qui je travaille, Elle fait de la chorale, elle fait de la zumba, elle a pas mal de choses aussi à côté et je trouve ça chouette. Et des fois, voilà, elle me dit, bon, je pars hein, parce que je te laisse parce que je dois aller à mon cours de zumba. Et moi, je lui dis, mais file, vite, vas-y, bien sûr, il faut. Et je trouve ça génial. Et oui, j'essaie d'avoir ce discours. Oui, alors par contre, chez mes patientes, j'ai du mal à... Bah, j'ai du mal à finir une consultation sans leur dire voilà que le mouvement c'est hyper important, mais ça peut être voilà, ça peut être juste faire un peu de yoga ou même enfin, ça peut être vraiment des toutes petites choses, mais juste bouger pour se sentir bien, c'est primordial. Prendre l'ascenseur ou les escaliers, enfin c'est plein de petites choses bêtes, mais qu'on peut entendre partout, mais finalement quand ça vient de la bouche du médecin, c'est souvent un peu plus intégré.
Donc, tu as déjà fait de la danse, de la gym, de la zumba. Il y a d'autres sports que tu aimerais essayer?
Ben, le trail, ça demande déjà beaucoup de temps, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ressentent quand ils sont blessés. Là, du coup, je suis un peu blessée, donc je me suis mise un peu à nager et à faire du vélo. Et c'est vrai que je me suis dit que je me mettrais bien un jour au triathlon. Alors là, encore une fois, c'est une discipline très ingrate qui demande beaucoup, beaucoup de temps, mais pourquoi pas m'essayer au triathlon?
Alors, moi, j'avais une autre question naïve. Dans ma représentation du sport de haut niveau, qui est peut-être erronée, mais en tout cas, c'est ma représentation, il y a quand même ce risque de blessure. Et je me suis toujours demandé comment les chirurgiens géraient la peur de se blesser, parce que finalement, j'ai l'impression que plus que dans d'autres spécialités, ton corps est ton outil de travail quand même. Et que si tu tombes et que tu te casses le bras, bah, tu pourras plus faire de césarienne pendant un temps en tout cas. Et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, auquel tu penses, ou alors pas du tout?
Bah, c'est drôle parce que je pense que notre génération réfléchit plus vraiment comme ça. Parce que le médecin avec qui je travaille, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais moi, quand j'étais jeune chef comme toi, mais je n'allais plus au ski de peur de me blesser et de ne pas pouvoir travailler. Et moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai. Alors, bon, pourtant, j'aime mon travail, hein, mais non, je vais pas me priver des choses que j'aime pour un risque qui est finalement très très bas en fait. Donc non, je préfère prendre le risque. Et après, finalement, même si j'ai été blessée, c'est vrai que je ne me suis jamais arrêtée. Et par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait une grosse chute justement en ski de rando. Et bon, j'ai failli y passer. Bon, c'est peut-être gros, mais vraiment, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. J'ai eu une très grosse chute et je me suis fracturé 3 côtes. Mais même avec ça, je me rappelle, c'était le samedi, puis le lundi, ben, j'étais d'astreinte et le lundi après-midi, je devais faire des césariennes. Et oui, c'est un peu douloureux, mais je pense que déjà, on a une sensibilité, on a quand même une résistance à la douleur, un seuil de douleur qui est très très haut quand on est sportif. Donc je me suis pas arrêtée malgré mes 3 côtes cassées. J'espérais juste de ne pas avoir une césarienne code rouge parce que passer de la position allongée à la position verticale était un peu longue. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des côtes cassées, mais un petit peu douloureux. Mais sinon, non, bah, j'allais. Et puis je faisais mon travail et j'essayais de passer la douleur. Et puis là, bah, par exemple, quand je vous dis que je n'ai pas pu faire de sport pendant 3 semaines, c'était pire que ça. J'étais même en béquille, hein, en canne anglaise. Mais bon, moi, j'allais faire mes consultations en béquille. Et puis si j'avais quelque chose un petit peu urgent, ben je m'autorisais, on va dire, la pose du pied parce que c'était surtout pour décharger le pied, mais je pouvais quand même le mettre à terre. Mais voilà, j'ai quand même continué à travailler, même si c'était en béquille. Les patients se demandaient pourquoi le médecin était en béquille, mais bon, j'ai pas. Elles m'ont pas trop posé de questions et non, je me suis jamais posé cette question, mais avec toutes les petites péripéties que j'ai eues depuis 3 ans, j'ai jamais eu, en tout cas, à m'arrêter. Bon, on a plus de risques finalement d'avoir un accident quand on vient en voiture à l'hôpital et pourtant on prend quand même la voiture pour aller travailler. Donc non, j'ai pas, moi j'ai jamais eu ce raisonnement.
Au début, quand tu courais pas mal au feeling, on va dire. Et puis, tu t'es mise à avoir une course un peu plus technique. Est-ce que ça a changé quelque chose d'alimentaire? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as acheté une montre? Bon, bah non, parce que maintenant tu dis bien que tu as un équipementier pour la montre. Mais Qu'est-ce que tu as modifié pour faire quelque chose de plus technique?
Bah oui, c'est sûr qu'une fois qu'on commence à vouloir rentrer, à performer, à vouloir être encore meilleur, ben il y a plein de petits gains marginaux qu'on peut avoir. Enfin, effectivement, en fait, il y a plein de choses à changer, mais c'est venu tout à fait naturellement. Tout à fait naturellement. Par exemple, bah, je vais essayer d'être assez vigilante sur le sommeil, mais parce qu'en fait, finalement, bah, maintenant, j'aime plus forcément me coucher à pas d'heure, et c'est vrai que je suis devenue une couche tôt, mais parce que ça me fait du bien, ou même au niveau de l'alimentation, bah, je me restreins absolument pas. Hein, je vais pas du tout restreindre mes apports en quantité ni en qualité. Et s'il y a quelque chose qui me fait plaisir, je vais pas m'en empêcher parce que je fais du sport. Mais cela dit, intuitivement, j'ai toujours aimé avoir une alimentation assez saine. J'ai jamais vraiment été attirée par les fast-food ou la junk food. Donc oui, j'ai une alimentation, on va dire, assez équilibrée, mais ça a toujours été le cas. Mais voilà, en m'acceptant toujours mes petits plaisirs. Après, oui, ben maintenant, je suis devenue un peu plus technicienne. Enfin, mon corps est un peu technicienne de mon corps. Donc, je vais faire des entraînements en fonction de ma fréquence cardiaque, en fonction d'une certaine allure. Mais tout ça, c'est géré par mon coach, hein, qui ça me permet moi aussi d'avoir une charge mentale en moins au niveau de l'entraînement. Mais voilà, tout est calibré, rien n'est fait au hasard. Le matin. Depuis peu aussi, mais voilà, c'est plein de petites choses en plus. Mais je ne sais pas si vous connaissez la variabilité de la fréquence cardiaque, mais voilà, ça permet un peu d'avoir une idée de l'état un peu de son système sympathique et parasympathique, donc par rapport à la variabilité de la fréquence cardiaque, et tous les matins je la prends, donc ça me permet de voir quel état de forme je suis. Donc c'est assez intéressant quand je suis en lendemain de garde, parce que si vraiment je suis fatiguée et qu'en plus mon HRV est pas bon, on va décaler certaines séances. Donc oui, forcément, mais ça c'est plein de petites choses qui ont évolué depuis plusieurs années. Je suis pas passée du jour au lendemain de grandes fêtardes à courir au feeling n'importe comment à la vie que j'ai actuellement. Ça s'est fait, voilà, de façon naturelle, toujours avec parce que j'en avais envie, et voilà, maintenant effectivement je fais un peu mieux les choses, parce que je trouve aussi beaucoup de plaisir dans la performance, et de voir comment le corps peut réagir et comment on arrive à être meilleur au niveau sportif. C'est vraiment tellement agréable que finalement c'est pas du tout des contraintes tout ce que...
Alors, on a ébauché un portrait de ta vie de médecin actuellement, et je me demandais, quand tu t'es inscrite en médecine après le bac à 18 ans, c'était quoi ta représentation du métier de médecin? Comment tu t'imaginais quand je serais grande?
Alors, du coup, je m'imaginais pas du tout sportive. Moi, je m'imaginais finalement médecin généraliste, en consultation, dans un cabinet libéral, dans un petit endroit un peu désert médical, médecin de famille, médecin de campagne. J'avais un peu plus imaginé ça, ouais.
Aucun regret aujourd'hui?
Ah non, non, non. C'est pas du tout pareil. Mais non, pas de regret, mais je pense que si j'avais été médecin de campagne, médecin de famille en pleine campagne, je pense que j'aurais aussi très bien vécu. Il y a pas, voilà, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. C'est pas parce que j'ai choisi cette branche-là que l'autre aurait été moins bonne, mais je regrette pas ma vie actuelle.
Et si tu étais de nouveau au moment du concours de l'internat et que tu ne pouvais plus choisir gynéco, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y en a plus, est-ce que tu choisirais autre chose comme spécialité?
Bah, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me serais peut-être orientée vers de la médecine générale, enfin de la médecine du sport. Mais au moment où j'ai choisi la spécialité, je connaissais même pas le sport. Je pensais pas que je serais aussi autant attirée par ça. D'un autre côté, peut-être que faire du sport, des entraînements toute sa journée, et en même temps faire un métier qui est encore en relation avec le sport, peut-être qu'à un moment, au bout d'un moment, j'en aurais eu marre. Ça aurait été un trop plein. Donc, Donc, je ne sais pas si ça aurait été la bonne option, mais j'aurais peut-être choisi ça. En tout cas, j'hésite. Moi, c'était soit gynéco ou si j'avais pas gynéco, c'était médecin généraliste. Donc, je pense que j'aurais choisi la médecine générale.
Et aujourd'hui, comment tu imagines ton avenir?
C'est une bien grande question, du coup. Déjà, moi, j'aime beaucoup le sport, hein, j'aime beaucoup tout ce que ça m'a apporté, mais j'imagine pas finir ma vie toujours à faire, enfin, il y a un moment où le corps me le rappellera, mais je me dis pas, il faut absolument que je fasse de la compétition et du sport de haut niveau jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, vraiment, moi, je me suis encore donné, on va dire, 2, 3 ans, enfin, ouais, 1 ou 2 ans, ou je sais pas, on verra, de pratique sportive, au moins 2 ans. Enfin, à peu près 2 ans, on va dire. Et puis ensuite, bah, j'ai toujours voulu avoir une vie de famille. Donc, je pense que je vais essayer de passer aussi à cette belle étape de la vie. Et ensuite, c'est vrai que la gynéco-obstétrique, c'est particulier. Faire des gardes, c'est fatigant. L'obstétrique, ouais, c'est assez stressant. Je ne pense pas non plus en faire toute ma vie. Je me vois bien, moi, faire un peu de libéral, retourner en libéral. Et pour être tout à fait honnête, depuis que j'ai cette double casquette sportive et gynécologique, je m'intéresse et j'adore et ça me passionne tout ce qui a trait à la gynécologie du sport. Donc, ouais, tout ce qui a trait à la femme sportive. Et on se rend pas compte de toutes les spécificités que la femme sportive peut avoir, que ce soit de l'adolescence à la ménopause, en passant par la période d'activité génitale, par la grossesse, le postpartum. Après, il y a plein de spécificités liées aux troubles du cycle, liées aussi à la contraception, aux troubles de la statique pelvienne, les incontinences urinaires. Après même, hein, l'entraînement de la femme, parce que au niveau hormonal, au niveau osseux, au niveau métabolique, morphologique, en fait, on est vraiment différent, enfin, on a vraiment des spécificités. Et le problème, c'est que dans les études, toutes les études qui sont faites, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, dans les études qui ont lié à trait au sport, il y en a seulement 5% qui sont dont la population est féminine, purement féminine. Sinon, c'est souvent quand même des hommes. Et tout ce qui est entraînement, prise en charge, on fait pour les femmes, ben, on fait comme si c'était pour les hommes. Et pourtant, il y a un médecin anglais qui dit women are not small women, small men. Je vais y arriver, mais en gros, on n'est pas des petits hommes, on est vraiment différents. Et ça, je me régale. C'est compliqué parce que c'est pas une spécialité à part entière, c'est pas une spécialité en soi. Il n'y a pas de diplôme pour la gynécologie du sport. Mais ça, je le regrette et j'aimerais être un peu, voilà, un peu être. Être là, enfin voilà, commencer à être là aux portes de ça, et puis ouvrir un petit peu cette voie et devenir, enfin voilà, créer une sorte de surspécialité qui n'existe pas encore et en être une référente.
Et dans les autres objectifs plus sportifs, quels sont tes objectifs de sport là pour l'année qui arrive? Alors t'as dit avril-mai par exemple. Est-ce qu'on te verra sur la Volvic Volcanic Experience, si tu connais?
Eh ben oui, je connais bien, mais non, on m'y verra malheureusement pas. Mais je sais pas pourquoi. Tu la connais, tu es de là-bas?
Oui, voilà, je suis là.
Non, mais j'ai reçu, sache que j'ai reçu l'invitation. Donc, c'est pas non plus très loin de chez moi, la Lozère, de la Lozère, la VVX. Et c'est quand même une belle course, effectivement. Et malheureusement, j'ai regardé les dates. Il me semble que ça tombe pas très loin parce que les objectifs, vraiment là, principaux, ça va être les championnats d'Europe de trail qui vont être à Annecy. C'est le 1er juin. Et pour être qualifié en équipe de France, il va falloir que je fasse les championnats de France à Buis les Baronnies dans la Drôme provençale le 7 avril. Oui, c'est ça, le 7 avril. Il va falloir que je fasse partie des deux premières. Donc, il va falloir, voilà, que je sois en forme. Et le 7 avril et le 2 juin. Et il me semble que la VVX, c'est pas très loin de ça. Et vraiment, j'ai appris un peu de mes erreurs cette année où j'ai fait beaucoup de cours, j'ai voulu en demander beaucoup à mon corps. Et maintenant, voilà, je sais que j'ai plus l'âge où j'arrivais à enchaîner des sorties de 8 heures en lendemain de garde ou à enchaîner toutes les semaines et tous les week-ends des courses. Voilà, maintenant, j'ai un peu plus de mal, je mets un peu plus de temps à récupérer, donc je ne peux pas me permettre de faire des courses tous les week-ends.
Alors Blandine, je te propose de passer à la question rituelle à la consulte, la question que je pose à tous mes invités. Quelle est ta tenue de travail ?
La tenue de travail.
Yes.
J'aime pas être en habit civil parce que je trouve ça tellement confortable les pyjamas. Donc soit je suis en pyjama de bloc avec ma petite blouse blanche par-dessus, mais bon, ça ils aiment pas trop hein, les pyjamas verts. Quand on se prend avec les pyjamas verts, normalement on n'a pas trop le droit. Sinon c'est la tenue le bas blanc et le blanc avec la blouse par-dessus. Voilà, mais je suis rarement en civil parce que ça quand même plus agréable et puis voilà, au moins il n'y a pas de distinction.
Et donc je note que quand on te demande ta tenue de travail, tu nous parles de ton travail à l'hôpital et pas du trail.
Et oui, voilà, c'était ça la question piège. Sinon,
c'est pas vraiment un piège, mais vas-y, oui.
Par contre, j'ai des baskets.
Voilà. Toujours en basket.
Toujours en basket. Non, ou en crocs, mais c'est vrai que les baskets, c'est confortable, oui.
Ah oui, les crocs, c'est moins pratique pour le trail, oui.
Mais quand tu m'as posé la question, il y a eu un moment où j'ai failli hésiter, mais je pense que si ça avait été un autre podcast pas orienté qui s'appellerait Performance et pas la consulte, je pense que j'aurais dit en short t-shirt.
Ah oui, j'arrive avec le nom de mon podcast. Est-ce que, Blandine, il y a quelque chose que tu souhaitais ajouter, une question qu'on ne t'aurait pas posée ?
Non, bah c'est très bien. Après, je pensais que la question rituelle, ce serait qu'est-ce que tu aurais à dire, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ceux qui veulent se mettre et qui pensent ne pas avoir le temps, ne pas avoir les capacités. Mais Dorothée l'a déjà posé et je pense que j'y ai répondu. Mais oui, par rapport au temps, j'y ai répondu, par rapport aux capacités. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas parce qu'on est... En fait, il faut juste se fixer les objectifs à la hauteur de ce dont on est capable. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop hauts, se dire « Ah, demain, j'ai envie de courir un marathon alors qu'on n'a jamais couru plus de 10 minutes d'affilée. » Mais c'est ça aussi qui est génial dans le sport, en fait. C'est que n'importe quel objectif, aussi grand soit-il ou aussi petit soit-il, le sport nous permet vraiment de retrouver une confiance en soi. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé le sport aussi. Comme je disais, moi, j'ai une petite estime de moi. Après, voilà, ça va quand même. Hein. Je suis pas non plus complètement. Je me trouve pas non plus la plus ratée de la terre. Mais c'est hyper agréable de se sentir bon dans un domaine, de réussir quelque chose, un objectif dont on s'est fixé, de se donner les moyens pour. Moi, je trouve aussi que le chemin pour y parvenir, il est magnifique. De se donner un objectif sportif, de s'entraîner pour pendant des semaines, pendant des mois, et d'arriver à cet objectif et de le réussir. Et ça peut être juste courir 30 minutes d'affilée ou aller faire un ultra trail, qu'importe, tant qu'il est accessible et que faut pas qu'il soit trop facile non plus, sinon on n'a pas ce plaisir de l'accomplissement. Mais voilà, faut qu'il soit suffisamment accessible pour y parvenir et voilà. C'est encore une fois les émotions que ça procure et le bien-être, je pense que ça va.
Ça sera le mot de la fin. Je te remercie, Blandine, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Ben, merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Oui, merci.
J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler et à le relayer autour de vous, c'est ce qui le fait vivre. Et venez partager votre propre témoignage au micro. Si vous connaissez quelqu'un dont le parcours peut nous inspirer, alors contactez-moi sur l'Instagram du podcast, Stateway Basket. Merci.